Alors, Boker Tov, les Koulam. On revient dans notre étude du Sefer Oroth du Rav Kook. Et donc, eh bien voilà, les amis, aujourd'hui, on rentre dans le premier chapitre. La semaine dernière, on a parlé de l'introduction du livre de Oroth. Et maintenant, on peut rentrer dans le premier chapitre. Yalla, c'est parti. Et donc, on commence à... Et donc là, on commence tout de suite par une phrase négative. Négative, puisque qu'est-ce qui a marqué? On voit ici, Eretz Israël, donc la première partie s'appelle Eretz Israël. Le Rav Kook va nous enseigner quelle est la valeur profonde et intrinsèque de la terre d'Israël. Ok? Et donc, le Rav commence en nous disant la chose suivante. Tout d'abord, je vais aller trop vite, le mot Oroth, qui est le titre du livre dans l'enseignement du Rav Kook, veut dire Tfissot. Justement, pas lumière. Enfin, lumière, oui, mais ça veut dire tfissa, une compréhension. C'est-à-dire, des fois tu dis ça en français, tu dis à la lumière de ce témoignage, alors je comprends les choses différemment. Je vois les choses d'une autre lumière. Ok, donc Oroth, c'est une compréhension. Il va nous donner une nouvelle compréhension. Pardon ?
Éclairage.
Voilà, c'est un nouvel éclairage. Exactement. Très bonne définition, merci beaucoup. Très bel éclairage sur... ce que va être Eretz Israël, Am Israël, plein de sujets. À chaque fois qu'il dit Oroth quelque chose, ou Oroth tout court, c'est un éclairage. Bessel. Alors on commence directement et on commence par une phrase négative. Il veut nous expliquer ce qu'est Eretz Israël. Et donc il ne commence pas par nous dire voilà, Eretz Israël c'est ça. Il commence en nous disant Eretz Israël c'est pas ça. Bizarre. On dit Eretz Israël et Inena. Pourquoi est-ce que tu commences par quelque chose de négatif? Eh bien, à chaque fois qu'on veut dévoiler quelque chose de grand, il faut commencer par dire ce que c'est pas. C'est-à-dire commencer par enlever les mauvaises compréhensions, peut-être un peu trop enfantines, voire trop terre-à-terre de la chose.
En médecine, c'est le diagnostic différentiel.
C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que tu n'as
pas?
Voilà, exactement. Et en vérité, on voit ça dans plein de choses. Quand on veut savoir ce que c'est Dieu, ben on va te dire d'abord qu'est-ce que c'est pas. Et après, tu comprendras que tu ne peux pas savoir vraiment ce que c'est. Quand tu vois quelqu'un, je schématise évidemment, mais quand quelqu'un va te demander c'est quoi Shabbat, il ne connaît pas, ben en général, la première chose que tu lui dis, c'est « Ah ben Shabbat, tu n'as pas à faire ça, pas à faire ça, pas à faire ça, pas à faire ça. » C'est les 39 travaux interdits de Shabbat. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter Shabbat, mais vous avez compris l'idée. Plus quelque chose est grand, eh bien, plus on va d'abord expliquer qu'est-ce que ce n'est pas, pour ensuite expliquer ce que c'est.
Enlever les mauvaises herbes.
Voilà, faut enlever les mauvaises compréhensions pour arriver à la bonne. Maintenant, c'est pas que le Rav Kook il a pas de définition de ce que c'est. Dans la phrase suivante, il dit Eretz Israël, hi. Donc, il sait quoi te dire, qu'est-ce que c'est. Mais il veut d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est pas. Donc, on va lire la première phrase, mais sachez que cette première phrase, elle ne vient pas du Rav Kook. C'est-à-dire que cette première phrase, elle vient de quelqu'un qui a dit « c'est ça, Eretz Israël ». Et le Rav, il dit « non, c'est pas ça ». Ok ? Alors, regardons la première phrase. « Eretz Israël et inena davar chitsoni kinyan chitsoni lauma rak betoch emtsai la matara shel ha'itagdut ha'kelalit ve'achzakat kiyuma ha'chomri o afilu ha'ruchani ». La phrase étant très claire, on peut passer à la suivante. N'est-il pas ?
C'est-à-dire que...
Mais t'inquiète pas, même celui qui comprend l'hébreu, il n'a pas compris ce qui s'est passé ici. Alors d'abord, il faut savoir que le livre n'est pas écrit en hébreu, il est écrit en koukiste. En koukiste. C'est l'hébreu du Rav Kook. Voilà. Donc si déjà, c'était pas facile pour nous, les francophones, de comprendre l'hébreu, maintenant en plus, comprendre le Rav Kook, oh, il va à voy. C'était pas sa langue maternelle, c'est vrai, comme toi et moi, mais Malahasot, c'est Shefa Ruach HaKodesh. Quand quelqu'un il est habité de tellement de Ruach HaKodesh, eh bien, ça part, qu'est-ce que je te dis? J'ai raconté hier soir dans le cours que je donnais sur le Rav Kharlap, qui était un des grands élèves du Rav Kook, qu'un jour, hein, ils étaient dans la Massa Moshavot, ils étaient dans le voyage qu'ils ont fait dans les différentes implantations nouvelles, et une nuit, ils partageaient la même chambre, le Rav Kook et le Rav Kharlap. Et une nuit, le Rav Kharlap se réveille et il voit le Rav Kook faire les 100 pas dans la chambre. Il marche en long, en large, en travers. Et à un moment donné, il vient vers lui, il l'attrape. Il l'attrape et il lui dit en yiddish, je ne vais pas le dire en yiddish parce que c'est des gens en cookies, vous avez du mal. Il lui dit, j'en peux plus, je brûle d'amour pour Akadosh Baruch. Comme ça en pleine nuit. Bon, moi, je me réveille en pleine nuit, c'est pour d'autres raisons. Mais ça, c'est pas... Chacun son niveau. Mais Kitzur, nous dit le Rav Kook, Orot, Eretz Israël, Einen a sonné pas d'avoir chitsoni. C'est-à-dire quelque chose d'extérieur, un acquis extérieur au peuple juif. Ok ? Qui ne sert que comme moyen de nous rassembler et peut-être même de nous permettre de subsister de manière matérielle, voire spirituelle. Bon, c'est toujours pas clair. On l'a dit en français, mais c'est toujours pas clair. En fait, le Rav Kook répond à un autre rabbin qui est à peu près de 50 ans son prédécesseur, qui était un Talmid Chacham énorme, qui était un tzaddik énorme et qui a certainement sauvé le judaïsme d'Europe occidentale de l'assimilation, mais qui était fondamentalement antisioniste. Il s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch invente le néo-orthodoxisme pour combattre l'assimilation grandissante en Europe occidentale.
Néo-nazi, ça ressemble à néo-orthodoxie.
Mais ça n'a rien à voir.
Je sais que ça,
ça n'a rien à voir. Néo, ça veut simplement dire nouveau. Nouveau. Ça n'a absolument rien à voir. Quand tu dis néo-nazisme, ça fait référence à ces groupuscules actuels d'extrême droite qui sont les nouveaux nazis. Tu peux dire néo-orthodoxie, ça veut dire la nouvelle orthodoxie, ça n'a absolument rien à voir. Néo-orthodoxisme, par contre. Hein?
C'est lui qui s'était opposé à Rothschild. Rothschild voulait investir en Israël, lui voulait investir en Amérique latine.
Rien à voir non plus. Non.
On apprend.
Deux secondes, les amis. Rien à voir non plus, mais. Tu as des circonstances atténuantes. Parce que là, ce n'est pas que tu ne sais pas ce que veut dire le mot néo, mais c'est que tu as confondu entre deux Hirsch. Ils s'appellent tous les deux Hirsch. C'est vrai qu'il y a le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et toi, tu parles du baron de Hirsch. Ah. Ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, non, rien à voir, mais quand même. C'est-à-dire, non, je peux comprendre qu'il se soit trompé. Oui, non, c'est pas le même, hein, c'est pas le même, rien à voir. Non, c'est pas la même famille.
C'est vrai, j'avoue.
Non, alors c'est pas du tout le même. Lui, il est antisioniste pour une autre raison. Il pense que la matara, l'objectif du peuple juif, c'est de rester bagalout. Et il dit, justement, maintenant qu'on a reçu l'émancipation en Europe, eh bien, c'est le moment où il faut rester en exil pour insuffler Kdusha Vetahara à l'exil, en faisant les mitzvot, en nous comportant bien en exil, en montrant un modèle aux goyim, et les goyim nous diront merci. Je rappelle que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch habite en Allemagne. Les Allemands nous ont vachement dit merci avec, pas les néo, mais les nazis tout court. Oui.
Je suis content d'avoir posé ma question.
Salut.
Il n'y a pas de retour d'Israël et sa terre avant l'arrivée du Mashiach.
Oui, bah, il peut pas ne pas avoir foi dans les paroles de la Torah. Donc il te dit, quand tu vas lui poser la question, et le Mashiach dans tout ça, il dit, ouais, Kadosh Baruch Hu va faire un miracle, pouf, on sera là-bas, yallah, pour la retraite. Il peut pas dire, jamais on sera en Israël. On sera en Israël, mais tu sais, c'est comme les gens qui te disent, Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, l'an prochain à Jérusalem. Imirtze Hashem, t'as tout ce qu'il faut, t'as une villa de 29 étages en Californie, Imirtze Hashem, on fera le concert l'année prochaine à Jérusalem. Ah, nous. Ça va.
Mais il est évident que ce n'est pas par hasard si Rav Kook et Rav Hirsch s'entendaient, malgré qu'ils étaient en opposition, ils s'entendaient. Et ce qui leur permet de s'entendre, c'est qu'ils savaient qu'au sein du peuple juif, à chaque individu juif, il y a une sorte d'étincelle. Ce qui a fait que finalement, que dans la Galoute, le judaïsme a persisté. C'est qu'il y avait en soi, à l'intérieur de soi.
Tous les chachamim, tu as raison, tous les chachamim, ils sont animés par ce même front commun qui est la Torah, l'étincelle divine qui irait dans chaque juif, et tu as raison. Mais l'enseignement, la façon de comprendre le dévoilement de la Torah, eh bien, chez le Rav Hirsch, il fallait rester en exil, alors que le Rav Kook, qui, ils ne se connaissaient pas, hein, ils ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas exactement de la même époque. Mais le Rav Kook, il dit ce que toi tu dis, Zelo Nachon. parce que tu vois Eretz Israël comme étant quelque chose d'extérieur, c'est ça qui nous intéresse ici, pour le Rav Hirsch, qui d'ailleurs a rencontré les précurseurs du sionisme. Il a rencontré le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, le Rav Chaya Al-Kalai, et il écrit dans Igrot Safon, dans un de ses livres, la rencontre qu'il a eue avec le Rav Kalischer et le Rav Gutmacher, qui ont parlé justement du sionisme et de la reconstruction. Il dit ce que... Pardon ?
Quelle époque ?
On est au début, plus la première moitié du 19e siècle.
Le Rav Avraham Yitzhak
à Cohen Cook va naître dans la deuxième moitié du 19e siècle. J'ai parlé de la première moitié.
Oui,
le Rav Cook naît dans la deuxième moitié du 19e siècle.
D'accord.
Alors peut-être qu'ils ont quelques années de Khafifa, mais bon, oui. Le Rav Cook il devait avoir moins de 10 ans et le Rav Hirsch était déjà très vieux. Donc ils ne sont pas sur la même génération de Rabbani. Mais ça a l'air. Quoi qu'il en soit, donc le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, pense que Eretz Israël, c'est Tashmiché Kdusha. Je m'explique. Dans une synagogue, c'est bien qu'il y ait un Sefer Torah. Tashmiché Kdusha, des ustensiles de Kedusha. Par exemple, dans une synagogue, c'est bien qu'il y ait un Sefer Torah. C'est important. S'il n'y a pas de Sefer Torah, est-ce que la communauté continue à exister ? Oui. On ne lira pas dans la Torah, on prendra un Chumash, on se débrouillera. C'est mieux qu'il y ait un Sefer Torah, mais s'il n'y a pas, l'on aura. Eh bien, pour le Rav Hirsch, c'est la même chose au niveau de la terre d'Israël. Si on peut y être et que le monde il est idéal, les bisounours, ben, la malo, c'est très bien. Il y a des mitzvot qui sont, qu'on ne peut faire qu'en Israël, la malo. Mais ce n'est pas fondamentalement lié au peuple d'Israël. S'il n'y a pas, l'on aura. On peut très bien être juif en route salade.
C'est gênant quand même.
Ben, évidemment que c'est gênant. Évidemment que c'est gênant, évidemment que c'est bizarre, mais en vrai, c'est tout simplement l'héritage de 2000 ans de Hutzlaretz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, on vit comme ça et on pense comme ça parce qu'on est en Israël et parce qu'on comprend et que ça a influé sur nous. Mais n'oubliez pas que pendant 2000 ans, Amisraël était en Hutzlaretz et puis il a survécu. Donc tu peux pas dire que c'est complètement absurde d'imaginer que bah non, le peuple juif peut très bien survivre en Hutzlaretz. Il faut avoir une...
Vous parlez de survivre.
Oui.
Alors que...
Bien fait. Mais c'est tout ça, c'est toute la différence, exactement. D'accord. C'est pour ça que le Rav Kook va écrire ce qu'il va écrire. D'accord. Donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est vrai qu'Israël c'est bien, d'ailleurs physiquement c'est bien, il y a l'air pur du Kinneret, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et puis au niveau spirituel, on peut bien réfléchir et bien se poser. Mais bon, si on peut trouver un bon chalet en Suisse pour se poser et étudier la Torah, yallah. Je parle de la Suisse, pas pour rien. Hein, il n'a pas tort, tu dis. Et bien justement, et le Rav Kook et le Rav Hirsch ont été en Suisse. À Montreux, je ne sais pas. Le Rav Kook, je ne crois pas qu'il ait été à Montreux. Le Rav Hirsch, il est passé par Montreux, mais pas à cause des Bochco. Le Rav Hirsch, il arrive en Suisse en retraite, en vacances. L'air pur des montagnes, la fondue, ce que tu veux. Et quand on lui demande, oh, parce qu'il s'émerveille devant les montagnes suisses, et il dit, quand Dieu il me demandera, quand j'arriverai là-haut, est-ce que istakalta al olami, est-ce que tu as vu mon monde? Je lui répondrai, oui, j'étais en Suisse.
Quelle publicité
pour les... Ah, il a fait. Le Rav Kook était bloqué en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Il est passé par la Suisse et il a été... Hein?
La Suisse est un petit.
Non, c'est la Suisse. C'est juste la Suisse. C'est juste la Suisse. Le Rav Kook était bloqué en Europe pendant la Première Guerre mondiale et avant d'arriver à Londres, il est passé par la Suisse. Il a été accueilli, excusez-moi, par un homme qui s'appelle M. Kimri et il voyait que le Rav Kook était déprimé. Ah oui, tu m'étonnes, la Suisse. Et donc un jour, il l'a emmené en tioul dans les montagnes suisses, comme le Rav Hirsch. Et le Rav Kook a regardé toutes les montagnes suisses autour de lui. Et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, Yerushalayim harim savivla. Jérusalem aussi est entourée de montagnes. Donc toute la question est de savoir quel est le point de vue. J'adore. Tu peux être en Suisse. Mais la question c'est, est-ce que quand tu es en Suisse, tu penses à Jérusalem? Ou est-ce que quand tu es à Jérusalem, tu penses à la Suisse? J'adore. C'est toute la question. À chaque fois que j'avais des groupes dans l'ancien monde, vous savez, dans le monde Zatzal d'avant le corona, et qu'il y avait des touristes qui venaient et qui disaient, ils étaient dans un endroit en Israël magnifique, et ils te disaient, waouh, ça me fait penser au Costa Rica. Ils disent, non, c'est le Costa Rica qui te fait penser à Israël, c'est pas... C'est-à-dire, donc tout dépend de comment tu perçois les choses. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav Hirsch, Eretz Israël, c'est bien, mais s'il n'y a pas, l'honora. Eh bien, le Rav Kook nous dit, non, zelo ze. Ce n'est pas ça. Alors, mazeken. Eh bien, nous dit le Rav, Eretz Israël, i chativa atzmutit kshura bekesher chayim imauma. Ha. Eretz Israël, c'est une chativa atzmutit. Qu'est-ce que c'est une chativa en hébreu? En hébreu. Hein?
C'est un bloc.
C'est un bloc, exactement. Mais c'est un langage, comme on dirait en yiddish, c'est un langage issu du monde du shmates. Tous les gens qui sont arrivés d'Europe de l'Est et qui sont arrivés en France, ils ont commencé « Shalom aleichem harav !» Oh. Amen. Amen, amen, amen. Non, non, c'est encore sa mère, les autres. Les juifs qui sont arrivés d'Europe de l'Est, ils sont tous reconvertis en France dans le textile. Alors nous, on appelle ça le textile en français. Mes grands-parents, ils appelaient ça la shmates.
Ils appelaient les shmatologues.
Ce sont, et mes grands-parents étaient les meilleurs shmatologues de l'univers. Bekitzour, donc, dans le langage du textile, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'était à la mode à l'époque, ça redevient à la mode parce que c'est vintage, que tu t'es fait un trou dans le coude de la veste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un bloc dessus pour relier et faire un seul bloc. Ça s'appelle chativa.
De cuir, en général.
Oui, en général, de cuir pour que ça tienne. C'est-à-dire, donc, c'est ça, chativa. Donc, c'est pour te dire qu'il s'agit de quelque chose qui met à raide. On ne peut pas le dissocier. Donc, nous dit le Rav Kook, Eretz Israël. Oui, mais justement, maintenant, ça fait un avec la chose. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est chativa atzmutit, c'est etzem adavar. Kshura bekesher chayim imauma. C'est quelque chose qui ne fait qu'un avec le peuple juif, et non seulement ça ne fait qu'un, donc ce n'est pas un plateau sur lequel tu mets les juifs, ça ne fait qu'un avec le peuple juif, et plus que ça, c'est quelque chose qui donne un lien de vie. Kshura bekesher chayim. C'est un lien qui donne la vie. Et là, il faut s'arrêter deux petites secondes pour comprendre de quoi on parle. Le français est attaché à la France. Il est d'ailleurs tellement attaché à la France qu'il l'appelle sa patrie.
La mère patrie.
Voire même la mère patrie. C'est-à-dire que, alors on va retrouver ça en allemand, le Vaterland, le Motherland en anglais. C'est-à-dire qu'il y a cette notion que les peuples entretiennent un lien avec leur territoire qui est un lien de parent à enfant. C'est fort. C'est fort. Zénachon. Mais ce n'est pas un lien qui peut donner la vie. C'est-à-dire les parents ont donné la vie à l'enfant, mais entre les enfants et les parents, ça ne donne pas la vie. Ça s'appelle de l'inceste, sinon. D'accord ? Donc, c'est un lien qui est naturel. D'ailleurs, très, très concrètement, le peuple, les différentes nations se sont constituées nations parce qu'elles étaient naturellement sur la terre où elles étaient. C'est quoi les différentes nations ? C'est un groupe humain qui était au même endroit, qui avait la même histoire et les mêmes enjeux, qui se sont réunis, qui ont fait un peuple. Ce sont des conditions naturelles qui ont fait la réunion de cette nation, mais pas chez le peuple juif. Car la mère patrie du peuple juif, c'est où ? Non, comme vous avez dit. Où le peuple juif est né ? En Égypte. Eh oui, là où la famille d'Israël est descendue, c'était qu'une famille, quand on est en Égypte, on est déjà devenu un peuple. Donc la nation juive, le peuple juif est né en Égypte. Notre mère patrie, c'est l'Égypte. Ah, mais la halakha nous dit, on n'a pas le droit de retourner vivre en Égypte. D'accord ?
L'embryon, il est d'Israël. Je veux dire, les 70
nations. Mais c'est pas encore un peuple.
D'accord.
Mais c'est une famille. La notion de peuple juif, elle est née en Égypte. Ok ? Et donc, on n'a pas le droit de retourner vivre en Égypte. Parce que... Oui ?
Excuse-moi, je crois que c'est même pas cette notion-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'en Égypte, on n'était pas un peuple.
Ah bon ?
On était un groupe d'esclaves.
Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé d'être en désaccord avec toi. Oui, mais comme je t'adore, eh bien, j'ai pas envie de te laisser t'engouffrer dans une erreur. Donc, non, mais c'est bon, tu vas être d'accord avec moi dans deux secondes. Je comprends ce que tu dis. Quand on est sorti de l'Égypte, alors on a pris conscience de notre dimension de peuple. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas d'accord. Parce que tu as oublié, parce que je sais que tu le sais, mais tu as oublié un verset qui date d'avant l'esclavage en Égypte. C'est justement au moment où Pharaon veut nous commencer l'esclavage, il dit à son peuple, aux Égyptiens, au tout début du livre de Shemot, il dit « Yesh am Bene Israël, Rav Ve'atsum Mimenu. C'est avant l'esclavage, nous sommes déjà considérés comme un peuple. Après, il va nous mettre en esclavage, il va nous enlever notre capacité de nous exprimer comme un peuple, et tu as raison, quand on va sortir d'Égypte, on va retrouver cette identité. Mais cette identité existait déjà avant l'esclavage, quand on était en Égypte, et on était déjà un peuple. Donc, si tu veux...
Ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que, finalement, c'est l'étranger, Pharaon, qui a identifié le peuple.
Oui, bien sûr. Ah, bah très souvent. Très souvent, pour comprendre qui tu es, tu as besoin d'un regard extérieur.
Oui, c'est un regard extérieur.
Bien sûr. Mais c'est vrai pour toute la vie. Je te rappelle que pour te connaître véritablement, tu as besoin de ta femme.
Oui.
Un regard extérieur.
À ça, qui dit que le peuple juif.
Il n'y a rien à voir. C'est la même chose.
Mais, et deuxième chose, c'est Hachem qui a demandé donc à Moshé d'aller chercher.
Bien sûr.
Et donc, il va chercher quoi ? Une identité.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, il y a deux éléments.
Bien sûr, tu as raison. 100%. 100%. Donc, ça veut dire que le peuple juif est né en Égypte. Donc, là, à la Khamvi, on n'a pas le droit de retourner en Égypte pour ne pas faire un complexe d'Oedipe collectif. C'est-à-dire ? Je vous rappelle le complexe d'Oedipe pour tout le monde. La volonté de tuer son père pour aller coucher avec sa mère. Ça d'air ? Maintenant, nous, on ne veut pas ça. Donc, on n'a pas le droit de retourner s'installer en Égypte. Ah, la terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle est pour nous, puisque ce n'est pas notre parent ? Alors, c'est quoi ? C'est notre kala, plus que fiancée maintenant. C'est notre femme. Et oui, nous disent les prophètes que la relation qui unit le peuple d'Israël à la terre d'Israël, c'est une relation intime. Ken ? La notion affilée d'une relation presque sexuelle entre Am Israël et la terre d'Israël. En d'autres termes, ce qui unit le peuple juif à la terre d'Israël, ce n'est pas une relation de parents-enfants, mais une relation de Khatan et Kala, qui donne la vie. D'ailleurs, eh bien, je ne vous apprends rien en vous disant que eh bien, le peuple d'Israël, d'après le livre de Yechezkel, est appelé Adam. Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. Nous sommes donc Adam. Ah ah ! Gardez ça dans un coin de la tête pendant 2 secondes. Vous savez, il y a une spécificité, bon, il y en a plein, mais une spécificité à l'hébreu, qui est que c'est la seule langue où l'homme est le masculin de la femme. Je ne parle pas au niveau physiologique, mais au niveau étymologique. En français, le mot homme et le mot femme n'ont aucun rapport étymologique. Man. Woman, le terme « wo », le préfixe « wo » n'est pas le féminin en anglais. Comment on fait le féminin en anglais ? Alors, il y a plein d'exceptions, mais de manière générale, on rajoute « e2s » à la fin du mot. Ok ? Actor. Eh ben voilà, on a les bilingues. Wo, non. Aga, vous savez ce que ça veut dire « woman » ? Ça vient de l'allemand. Womb-man. C'est-à-dire homme avec utérus. C'est pas mal. Homme avec utérus. C'est pas mal. Bon, ça marche aussi en grec. En grec, anthropos, guinéa. Rien à voir avec, en araméen, gever, et pas geveret. Geveret, c'est de l'hébreu. En araméen, ça se dit iteta. Donc rien à voir avec gever. Aval, comment on fait le féminin en hébreu ? On rajoute « hé »,« ish »,« isha ». Et il y a fait, tu as compris que donc le peuple juif qui s'appelle Adam, son féminin, c'est quoi ? Adama.
C'est le nom de mon agence.
Donc tu vois que tout est lié, finalement. Donc, le lien qui unit le peuple d'Israël à la terre d'Israël, c'est un lien de Khatan Vekala, un lien de vie. La grande différence entre le lien parent-enfant qui est très fort, hein, c'est un lien naturel, on a dit, donc dénué de tout sens moral. Je suis le père de mes enfants, ils n'ont pas choisi. La vérité, moi non plus. Et je suis le fils de mes parents, je n'ai pas choisi. C'est naturel. Et donc là où il y a la nature, il n'y a pas la morale. Ce n'est pas que c'est immoral, c'est amoral. C'est en dehors du contexte de la morale. Alors que le choix de ma compagne, le choix de ma femme, c'est un choix. C'est donc basé sur un choix moral. Rav Kook vient nous enseigner ici que la première chose que tu dois savoir sur la terre d'Israël, c'est que c'est ce qui va te permettre à toi, peuple juif, de créer la vie. D'être dans une optique de vie. Ça va ? Donc, Chavuka besgulot penimiot im metziyuta. C'est-à-dire que la terre d'Israël, le peuple d'Israël qui sont reliés ensemble, eh bien, sont reliés par des sgulot penimiot. Mas des sgulot penimiot, ce n'est pas le fil rouge. Car la ségoula, dans le langage du Rav Kook, n'a rien à voir avec le charlatanisme de nos dernières générations. Ségoula, c'est la kedusha interne. Ok ? Il y a dans le Rav Kook deux dimensions de ségoulot, deux dimensions de kedushot, la kedusha du choix, qui s'appelle Bechira, et la kedusha de la ségoula, qui est intrinsèque, profonde, qui est au-delà de toute explication. La Brit Mila pour l'enfant, pas pour le papa qui le fait. Voilà, parce que pour le papa qui le fait, c'est un choix de le faire, mais tu as raison, pour l'enfant qui la porte, c'est ça.
Ségoula.
Exactement.
Et s'il le fait à 10 ans ou 15 ans, c'est la...
Bechira. Exactement. Exactement. Donc ici, nous dit le Rav Kook, eh bien, cette relation de Am Israël et de la terre d'Israël, c'est Chavuka besgulot penimiot. C'est-à-dire, c'est un lien qui nous... Voilà, le dévoilement de qui tu es ici, Zébémet qui tu es. Ok ? Umitorkar. Et donc, suite à cela, Etzem Adava, Yefchar, l'amod, c'est-à-dire l'avin, on ne peut pas comprendre, al tochen shel zgulat kdushat eretz Israël, ou lo otzi la poal et omek ribata, beshum askala rationalit enoshit, ki im beruach Hashem, ki im beruach Hashem, asher ala uma bichlala. Nous ne pouvons pas comprendre à aucun niveau intellectuel le lien qui unit le peuple d'Israël à sa terre. La seule chose qui peut te permettre de comprendre ce lien, c'est Ruach Hashem, Asher Alauma Bichlala, les résidus de prophétie qui restent, le Ruach HaKodesh qui reste dans le peuple d'Israël, en d'autres termes, le lien avec le Tanakh. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans chaque page du Tanakh, le lien qui unit Am Israël à la terre d'Israël. Les amis, nous n'avons pas terminé le premier chapitre de Orot Eret Israël, c'est de ma faute parce que je suis arrivé en retard. Bezrat Hashem Inch'Allah, la semaine prochaine, 8h15, pile poil, on commence. Amen, Kenny Raton. A bientôt les amis. Et on passe en cuisine. Ou dehors.